sur RFI.
À suivre, reportage dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où Benoît Almeras a rencontré le dernier combattant africain de l'armée coloniale française, alors que les descendants de ces soldats craignent d'être oubliés par la France. Afrique Éco ensuite à la découverte du système Spiro. L'entreprise détient 90% du marché des deux roues électriques sur le continent. Un point sur la guerre au Soudan et les récentes avancées de l'armée avec notre invité Souleymane Baldo. Et puis le dernier sourire de la semaine de Maman, c'est dans une dizaine de minutes. Avant cela, place au sport. Et on y est déjà avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Nemo.
Du football, pour commencer, maladroite, la SEC d'Abidjan s'incline en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération.
Les Mimos, dominateurs pourtant en première période, mais finalement battus 1-0 au stade Félix Houphouët-Boigny, devant leur public, par une renaissance de Berkane qui l'aura joué à l'expérience, Yuen Gourlet.
Les chants du mur jaune n'ont pas suffi. Au coup de sifflet final, les supporters des Mimos étaient forcément déçus de cette courte défaite à domicile, à l'image du supporter Yannick Day qui pointe du doigt le manque d'efficacité des attaquants ivoiriens.
Ce qui a manqué à la SEC, on va dire, c'est d'être concret devant les buts. En face, on a vu une équipe marocaine qui a plutôt été concrète. Elle était certes un peu fatiguée en première mi-temps à cause de la chaleur, mais en seconde mi-temps, elle a commencé à montrer son jeu.
Les jeunes noirs peuvent en effet regretter leur maladresse devant le but durant le premier acte. Et en défense, en fin de match, des erreurs de jeunesse, selon Julien Chevalier, le coach de la SEC.
On espérait faire mieux, même si on savait qu'on avait un adversaire de gros calibre en face de nous et que nous, on est une jeune équipe. On a fait de bonnes choses, on a laissé passer l'opportunité en première période où on s'est créé des occasions, on les a mis en difficulté. Après, ils se sont restabilisés un petit peu, peut-être en pensant que le nul serait un bon résultat. Et sur une action un petit peu anodine, on a manqué, peut-être qu'on a montré quelques défauts qu'on a, de maturité, de capacité à gérer des situations qui sont pas très dangereuses si on l'anticipe.
Pour le match retour au Maroc le 9 avril, les Ivoiriens devront donc réaliser un exploit, s'imposer sur le terrain de Berkane, large leader du championnat marocain, qui n'a pas perdu en match officiel depuis près de 6 mois. Yuen Gourlet, Abidjan, RFI.
La SEC, Antoine, seule équipe à s'incliner à domicile lors de ses quarts de finale.
Oui, puisqu'Al-Masri s'impose 2-0 sur les Tanzaniens de Simba, une petite avance acquise en perspective du match retour. Dans les autres rencontres, pas de vainqueur, 0-0 entre Stellenbosch et le Zamalek du Caire, et un partout dans le duel algérien entre le CS Constantine et l'USM Alger. Ouverture du score de Mounder Temine en première période, puis égalisation de l'USMA signée du Congolais Kevin Mondeko. Une bonne opération pour son compatriote et coéquipier Glody Likonza.
Un match né à l'extérieur avec des buts marqués, c'est vraiment avantageux pour nous. Et j'espère bien qu'au match retour, on va essayer de gagner sans encaisser. Ça sera encore un match très très difficile. Parce que je sais que CSC va essayer aussi de marquer. Voilà. Ça sera un match très serré et en même temps très ouvert.
Glody Likonza avec Sofiane Anani. La seconde manche qui se jouera le 9 avril, mercredi prochain, donc au stade olympique du 5 juillet d'Alger.
Football encore chez les plus jeunes, cette fois avec le début de la deuxième journée de la CAN U17.
Honneur au groupe B, celui du Cameroun. Les Lionceaux battus par le Burkina Faso lors de la première journée et qui ouvre la journée dès 14h, temps universel face à l'Afrique du Sud. Les étalons U17 affronteront l'Égypte à 17h TU. Dans le groupe A, à la même heure, l'Ouganda affronte la Tanzanie. Le pays organisateur, le Maroc, conclura ce jeudi de CAN U17 avec une rencontre face à la Zambie. Ça sera à 20h, temps universel.
Et cette Coupe d'Afrique U17, ça ne nous rajeunit pas. Merci Antoine Grenier pour le journal des sports.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les principaux titres de ce jeudi 3 avril 2025. Les premières réactions ne se sont pas fait attendre. Ursula von der Leyen parle de coup majeur porté à l'économie mondiale. Le Japon juge les droits de douane américains extrêmement regrettables et possiblement contraires aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine demande à Washington de les annuler immédiatement. Cette nuit, le président américain a donc présenté ce qu'il qualifie de déclaration d'indépendance économique, en fait des droits de douane imposés à la quasi-totalité des pays du monde, en particulier à la Chine et à l'Union européenne, des droits qui doivent entrer en vigueur après-demain samedi. Dans la foulée de cette annonce, les bourses asiatiques sont en forte baisse. L'or, lui, voit son cours flamber. Le premier ministre israélien annonce mercredi que son armée morcelle la bande de Gaza et saisit les zones du territoire pour forcer le Hamas à rendre les otages. Le mouvement palestinien lui a rejeté la dernière proposition de trêve et de libération d'otages. Benjamin Netanyahou, qui est par ailleurs arrivé tout à l'heure en Hongrie, première fois qu'il se rend dans un pays membre de la CPI depuis que la Cour pénale internationale a émis contre lui un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On se pose une question dans le reportage du jour. Comment perpétuer la mémoire des soldats africains qui ont combattu pour la France? Beaucoup de familles craignent d'être oubliées à la mort du dernier vétéran de l'armée coloniale. Cet ancien combattant, le caporal Lama Nyankoy, dont Benoît Almeras a retrouvé la trace dans le quartier d'Oufouetteville de Danané, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est l'un des derniers témoins des tensions de l'époque entre la France du général de Gaulle, la Côte d'Ivoire, d'Oufouette-Boigny et la Guinée de Sékou Touré. Rencontre.
Dans l'armée, je m'appelle caporal Nyankoy Lama.
Appuyé sur sa canne devant sa maison modeste, le caporal Lama Nyankoy a l'esprit toujours vif. À 94 ans, entouré de ses proches, le patriarche raconte son parcours militaire. Engagé à 19 ans à Nzérékoré, le soldat originaire de Guinée sert à Madagascar ou encore en Algérie.
Où j'ai servi, Constantine, au rang, et où j'ai servi au mois de combat.
Mais en 1958, le caporal doit choisir son camp. La Guinée de Sékou Touré prend son indépendance de la France avec fracas.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
Lama Nyankoy sert encore 7 ans sous les drapeaux bleu, blanc, rouge, comme l'explique Félix, son fils.
La Guinée a demandé d'avoir sa libération. L'armée française a quitté. Maintenant, lui, il a demandé d'aller terminer ses 15 ans de service avec les Français pour qu'il puisse avoir sa pension.
Un choix et des conséquences. À sa démobilisation en 1965, les Guinéens de l'armée française sont vus comme des traîtres et des parias dans leur pays natal. Parmi eux, 37 vétérans échouent à Danané, en Côte d'Ivoire, autre pays hostile aux yeux du régime de Sékou Touré, un nom que Lama Nyankoy ne veut plus entendre.
J'aime le nom de Sékou Touré. Faut pas parler de gros mots avec moi. Ça, c'est un politique. Je ne connais pas politique. Quand Sékou Touré vivait, c'était très dur pour nous. Je ne veux même pas attendre son nom.
Francine Damé préside l'association des enfants des anciens combattants de Danané. Son père en était le chef.
Au moment où Sékou Touré était au pouvoir, je voyais mon papa ne pouvait pas rentrer.
Et est-ce que vous avez compris, après coup, pourquoi c'était comme ça?
Ceux qui ont suivi les Français ne pouvaient pas rentrer. Parce que lui, il a trouvé peut-être que les Français étaient ses ennemis.
Et ce passé ne passe toujours pas pour Francine, surtout quand elle se rend en Guinée.
Même si on va aujourd'hui, nous sommes les anti-guinéens. Même si on dit nous sommes guinéens, ils ne veulent pas accepter ça. On nous appelle, on dit nous sommes des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils savent que nous sommes guinéens, mais ils disent que oui, nous, au moment où eux, ils souffraient là, nous, on était où? Donc, c'est comme ça, on nous traite toujours. Donc, ce n'est pas facile.
Ses descendants redoutent d'être oubliés par la France, le pays que Lama Nyankoy avait choisi de servir. Benoît Almeras, Danané, RFI.
Reportage et témoignage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. L'économie des deux roues motorisées sur le continent dans le dossier Africico de ce jeudi. Près de 25 millions de ces véhicules circulent en Afrique aujourd'hui. Et parmi eux, 30 000 disposent d'un moteur électrique. Un marché encore nouveau, mais ultra dominé par un acteur, Spiro. L'entreprise s'est développée à partir du Togo et du Bénin et elle vend désormais au Kenya, en Ouganda, au Rwanda ou encore au Nigeria. Alors comment expliquer que Spiro possède 90% du marché et quelles sont les limites de ce modèle? Claire Fage s'est penchée sur ces questions.
Les deux dernières années ont été consacrées à améliorer les modèles de motos électriques et leur prix, explique Kaushik Burman, le PDG de Spiro.
If you have to be successful in this game.
Si vous voulez réussir dans ce domaine, vous devez vraiment proposer des produits abordables et des produits robustes. Parce qu'en Afrique, les terrains sont très difficiles. Le Rwanda a des pentes à 18 degrés. L'Ouganda a des routes caoteuses. Il faut donc des motos de très grande qualité, mais à un prix abordable, moins cher qu'une moto essence. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus.
Dans ce modèle économique, le client n'achète que la moto. La batterie, Spiro l'échange dès qu'elle est à plat. L'entreprise est devenue un fournisseur d'énergie.
Nous avons dépassé les 17,5 millions d'échanges de batteries aujourd'hui. Cela montre à quel point nous avons progressé au cours des 20 derniers mois. Nous avons environ 600 stations d'échange de batteries actives.
Ce maillage met fin à l'anxiété sur l'autonomie de la moto électrique pour un coût inférieur au carburant d'une moto thermique, reconnaît Yao Amedokpo. Mais selon ce spécialiste des mobilités urbaines et électriques à l'école des ponts et chaussées, la maintenance est encore un problème.
Quand vous prenez l'exemple de Lomé, il y a un seul centre de maintenance des motos qui se situe en périphérie de la ville. Et du coup, quand les conducteurs de moto ont des pannes en ville, parfois, il faut appeler ce centre-là pour chercher un moyen de transporter la moto, aller jusqu'au centre. Et comme c'est le seul centre, il y a un temps d'immobilisation qui est assez long.
Autre réserve du chercheur, le modèle industriel crée encore peu d'emplois sur le sol africain.
Pour l'instant, moi, je n'y vois pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, c'est toujours des motos en caisse qui arrivent et qui sont assemblées par les concessionnaires à Lomé ou à Cotonou. On ne voit pas vraiment comment est-ce que cela pourrait redynamiser le tissu industriel.
Spiro attend des incitations publiques pour fabriquer davantage en Afrique. L'entreprise assemble déjà des pièces plus sophistiquées au Kenya, comme les moteurs et les contrôleurs des motos. Elle compte implanter dans les mois prochains des usines au Nigeria, au Rwanda, en Ouganda. Pour doper encore ses ventes, elle a choisi Davido comme ambassadeur. Le partenariat avec l'artiste pourrait se renforcer.
Voilà un sujet signé Claire Fage du service économie de Radio France Internationale. On continue ce matin de vous parler du conflit au Soudan où depuis le début d'année, les forces de soutien rapide du général Emmeti semblent perdre du terrain face à l'armée. Les généraux Emmeti et Al-Burhan sont en désaccord sur tous les points liés au conflit, tous, sauf un, pas de négociation, la guerre doit aller au bout. Alors, où en sont les affrontements et comment l'armée a notamment réussi à reprendre Khartoum? Élément de réponse avec notre invité Souleymane Baldo, fondateur du centre de réflexion Sudan Policy and Transparency Tracker.
Les forces armées soudanaises ont été dans le défensif depuis le début de la guerre, n'est-ce pas? Elles ont subi beaucoup de revers parce que l'armée soudanaise, au début de la guerre, n'avait pas des troupes de soldats d'infanterie. L'infanterie de l'armée soudanaise, c'était les forces de soutien rapide. Et depuis le mois de septembre 2024, l'armée soudanaise a pu recruter des milliers de volontaires et il y a aussi des volontaires islamistes, des brigades djihadistes du mouvement islamiste soudanais qui se sont rejoints à l'armée et qui, disons, étaient le fer de lance de cette armée dans cette offensive.
Alors les forces de soutien rapide n'ont pas seulement perdu Khartoum, elles ont dû se retirer aussi de Wad Madani, c'était il y a 2 mois, au sud de Khartoum, et elles n'ont pas pu continuer d'assiéger El Obeid, c'est dans le Kordofan, au sud-ouest de Khartoum. Pourquoi cette série de défaites?
La raison principale du côté des forces de soutien rapide, c'est que c'est une force milicienne, c'est une force de milice janjaïde, où la loyauté des combattants est pour leurs chefs, disons, à cause des liens de clans, les liens tribaux. Et sur le terrain, l'armée soudanaise a visé la liquidation des commandants et cela a mené à une situation où les combattants se trouvaient sans lien direct avec leurs commandants et donc tout cela montre une faiblesse structurelle dans la formation des forces de soutien rapide.
Souleymane Baldo, invité de Christophe Boisbouvier ce matin. Vous retrouvez l'intégralité de cet entretien dans 1 heure sur nos antennes ou sur RFI.fr. (Rire) 6h56 ici à Paris, dans quelques instants, le début des RFI Matin avec Marion Kazanov. Mais avant cela, la dernière rumeur de la semaine de Maman. Maman, vous nous dites que les députés siègent côte à côte, mais n'ont pas le même prix.
Oui, dans le supermarché de la démocratie, les députés sont la tête de gondole. C'est eux qui t'indiquent si le magasin est bien tenu ou pas, si la soupe est bonne ou pas. C'est eux qui te montrent quand il y a promotion ou solde. Les députés, c'est le bulletin météo de la démocratie. Mais sache que dans les rayons de ce supermarché, comme il y a différentes sortes de yaourts, il y a différents types de députés. T'as les députés provinciaux, les députés nationaux et enfin et surtout les eurodéputés. Tu les connais, les eurodéputés? C'est le genre de produits que tu trouves dans le rayon épicerie fine. Il n'y en a pas beaucoup. Et bien évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. C'est ça, un eurodéputé. Ce n'est pas un élu du village. Hein. Il n'est pas départemental, provincial, ni même national. Il est continental comme la Champions League. S'il y avait une Coupe du Monde des députés, ben l'eurodéputé serait le représentant de tout son continent. Tu vois à quelle altitude vole l'eurodéputé? Il voyage tout le temps, l'eurodéputé, de Strasbourg à son village en passant par Bruxelles, sans oublier toutes les capitales du monde où il doit aller pour prêcher la bonne parole, la bonne gouvernance, le respect de ceci et de cela du haut de son mandat d'eurodéputé. C'est pour ça que tu ne dois jamais t'étonner de voir l'eurodéputé toujours avec un gros sac, un trolley, une valise. C'est son outil de travail. D'où l'expression « attraper l'eurodéputé la main dans le sac ». Oui, parce que sa valise, son sac, c'est tout pour l'eurodéputé. C'est son ami, son fidèle compagnon, c'est sa maison, sa voiture, son portefeuille, son compte en banque. Dès que tu lui donnes des euros, bah c'est dans sa valise qu'il les met, l'eurodéputé. C'est logique parce que dans eurodéputé, il y a d'abord euros, des euros sonnants et trébuchants, des euros craquants ou usagés dans toutes les coupures, de 200, 100, 50, 20 et même un petit billet de 5 euros. Il ne crache sur rien, il prend tout l'eurodéputé. Mais si tu as des dollars, il prend aussi. Appelle-le pétrodollar député si tu veux. Même si tu as des CFA, il prend aussi. Des CFA plein les valises, des CFA plein les djembés. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde l'eurodéputé. Le matin, il prend le boycott, le soir, il boycotte le boycott. Pile, il te dit de ne pas regarder la Coupe du Monde parce que le respect des droits de l'homme et tout ça. Face, il fait des excédents de bagages en revenant de Doha, les valises et les poches pleines. Il est contre les paradis fiscaux, l'eurodéputé. Contre les dictatures, contre le réchauffement climatique, les pesticides, les boissons gazeuses sucrées. Il est contre tout ça, mais attention, il peut changer ta vie si tu sais lui parler comme on parle au policier gondouanais à qui tu glisses un petit billet dans ton permis de conduire. Allez, à lundi.
Merci Maman, à lundi. C'est ainsi que se referme cette deuxième édition d'Afrique Matin. Merci à Didier Chérouz à la réalisation, à Xavier Besson à la rédaction en chef de cette demi-heure, 6h59 ici à Paris. Restez bien sur RFI, je vous laisse avec Marion Kazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Nemo, bonjour à tous. Ce matin on revient sur cette déclaration de guerre commerciale avec ce grand tableau cartonné tout plein de pourcentages brandis fièrement par Donald Trump, 10%, 20%, 34%, 46%. Le président américain impose des droits de douane à tout va contre le monde entier. Certains pays sont plus touchés que d'autres, on va le voir. Une déclaration d'indépendance économique selon Trump. On en parlera avec nos invités et on est à Washington dans le prochain journal. A tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Avec une écriture furieuse, inventive, polyglotte, Max Loeb replonge dans son passé. Jeune homosexuel camerounais, rejeté par son père dans un pays où celui qu'il appelle Pumba règne de toute éternité. Son roman La danse des pères est le récit d'une émancipation.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h31 sur RFI.